Bonjour, ici François Nardou de Mon Cuc au studio du Boulevard. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui était très à la mode au 19e siècle. Et je vais d'abord commencer par vous poser une question en vous lisant deux textes. Je vous demanderai quel est le point commun entre ces textes. Alors, le premier est un texte qui peut être encore dans les mémoires. Salut Pulido Pimparello, messazzero del Dus Printens, bero del Tsur, cum olestelo, l'escadobè, nets del firmament. Lul gran plagé che ta presenza dono canton l'ha esperado, nui fa crida plen d'assiguranza, salut Pimparello, salut. Premier texte, un poème de plusieurs strophes. Et le second, c'est celui-ci. Eros can li rugier sun ses fluni grano. El ric menugier en caso persano, m'espres cusirier tam me plaz l'urtenso, de far sirbentes car en bil tenenso, an tut bun prez mes, e car mai me tengai amours que nun fai el bel tens de mai, eros sui gai, cui que pes, tal zoi mes promes. Le point commun entre ces deux poèmes, c'est d'abord la Languedoc. Le premier, Languedoc du 19e-20e siècle. Le second, Languedoc du 12e-13e. Et le point commun entre les deux, c'est l'origine de leurs auteurs. Le premier est un poème, un court, une strophe d'un poème de Louis d'Elzon, né à Mon Cuc en 1857. Et le second est un poème de Bernat Arnal, ou Bernat Arnau, comme on voudra, de Mon Cuc, d'un certain Mon Cuc, et qui a vécu dans la seconde partie du XIIe siècle, entre, disons, 1150 et 1220 même, contemporain donc des grands personnages du temps et de l'apogée de l'art des troubadours et de la civilisation doc. Alors que Louis d'Elzon, lui, est le témoin d'un déclin de cette civilisation et de son maintien sous la forme d'une civilisation rurale et paysanne. Qui s'exprime à travers une langue qui, chez Delzon, semble malheureusement matinée de trop de formes françaises. On s'aperçoit à la lecture des œuvres de Delzon que sa connaissance de l'occitan était celle qu'il devait à son milieu d'origine, mais aussi oblitérée par ses longues études. Il était devenu ingénieur de l'École nationale des ponts et chaussées, et il avait donc oublié beaucoup de l'occitan de ses origines moncucoises. Alors, pour parler de ces deux personnages, il faut en revenir un peu, faire un peu d'histoire. Je commencerai par le plus simple, puisqu'on connaît sur lui que l'on connaît le moins de choses, Bernat Arnal de Mon Cuc. Vous pouvez prononcer en vocalisant le L final, ça peut devenir Bernat Arnau de Mon Cuc. Alors, il est habituellement donné pour avoir vécu dans la seconde moitié du XIIe siècle. L'étude de ces textes prouve qu'il serait plutôt peut-être contemporain des débuts de la croisade contre les Albigeois. C'est pas impossible du tout. Il affirme avoir pour seigneur, dans un de ses poèmes, le comte de Toulouse, mais il met en scène la rivalité entre celui-ci, le duc d'Aquitaine, probablement le comte de Barcelone devenu roi d'Aragon. Et on peut penser qu'il est plutôt, disons, contemporain de Raymond V et de Raymond VI. Il est dit être né à Mon Cuc. Enfin, il se dit de Mon Cuc. Il se trouve qu'il y a plusieurs Mon Cuc dans les pays d'Oc, mais si on fait des recoupements en étudiant ses textes, il a laissé quelques poèmes, on peut penser que c'est bel et bien le Mon Cuc de Quercy-Blanc dont il s'agit. Alors, les textes de Bernat Arnal sont connus par les mots de titre, les premiers mots, le premier vers. Nous avons de lui quelques pièces, dont « Er can li rugier », maintenant que les rosiers sont sans fleurs ni graines, et que les riches du petit peuple se livrent à la chasse à travers les marécages, « Le désir m'a pris », etc., etc. C'est le premier texte que je vous ai lu. Un autre texte moins connu, c'est « Anc mais tangen ubi beni pascu ». Jusqu'à présent, je n'avais jamais vu venir si noble temps de Pâques, et que je vois garni de guerre et de vacarme, et bégarnis des guerres et des mazanes, et bégarnis d'esmaï et des pau, et que je vois garni d'effroi et de peur, etc. C'est classique dans la poésie des troubadours du XIIe-XIIIe que cette entrée par une évocation du printemps dans toute sa splendeur et sa verdure, suivie brutalement d'une description d'armées rangées en bataille et de combat. Et c'est dans ce poème « Anc mais tangen ubi beni pascu » que Bernat Arnal de Mon Cuc nous dit qu'il a le comte de Toulouse pour seigneur. Al prou, comte de Toulouse, monseigneur, auprès comte de Toulouse, monseigneur, je demande que, etc. etc. Il se souvienne qu'il vaut plus que ce que les dommages qu'il a subis, etc. etc. Près quel membre qu'il balque, ni qu'il tengdan. Voyez un peu l'Occitan médiéval qui est pour nous devenu relativement, surtout dans les formes versifiées, c'est relativement difficile à prononcer, paraît être beaucoup plus archaïque que l'Occitan de Delzon, qui lui est un Occitan du 19e, 20e, mais c'est un Occitan de paysan. Alors, ce qu'il y a de très curieux chez Delzon, c'est que les formes proprement occitanes, il en a d'excellentes, que ce soit les mots ou les tournures, sont apparemment celles qu'il a entendues dans sa jeunesse lorsqu'il était à Montcuq. Il semble qu'il soit né à Couvinens, paroisse de Saint-Privat. Couvinens, c'est ce qu'on appelle en termes de géographie historique, non pas un cap-mas comme au temps des comtes de Toulouse, mais un maine, appellation qui apparaît au 15e, 16e siècle, de regroupement d'habitats ruraux en forme de hameau, très bien étudié par Pierre Desfontaines dans sa thèse sur la moyenne Garonne et par Jean Lartigot dans ses travaux sur le Quercy après la guerre de Cent Ans. Et Jean Lartigot fait de Couvinens un maine. Et il semblerait que ce soit là que soit né Delzon. Son père était né, semble-t-il, en 1834. Il avait 23 ans lors de la naissance de Louis, né en 1857. Le père de Louis Delzon était piqueur, c'est-à-dire tout simplement arpenteur-géomètre. Il savait donc lire, écrire et tracer des plans. Et sa mère était sans profession. Elle porte un nom que je ne suis pas très bien arrivé à lire, du type Ossali, Fusali. La première lettre se lit très mal. Louis Delzon semble avoir fait des études ensuite à l'école primaire de Montcuq, mais qui était à l'époque une école congréganiste, comme à l'école supérieure, l'actuel collège, tenu par, je pense, ou les frères des écoles chrétiennes, ou les assomptionnistes, ou les oratoriens. Puis, peut-être, a-t-il fait des études au lycée de Cahors, où il a passé le concours d'entrée à l'École nationale des ponts et chaussées, dont il est sorti ingénieur, et il y a fait sa carrière jusqu'en 1923, où il a été admis à la retraite. En 1932, il est encore en vie. Il est cité dans le journal du Lot à propos des fêtes votives de Montcuq du 17-18 septembre 1932, où on a interprété l'œuvre majeure de Louis Delzon, la fameuse Montcuqueso. La Montcuqueso qui est le chant, patriotique, local des Montcuquois. Et Montcuqueso que je me dois absolument de vous citer, je ne vais pas vous la chanter, il faudrait l'entendre chanter pour que ce soit mieux rendu. O mun pais, d'un lur renun d'un estetat de cortesio, s'estendra leu presque talun cum o lu de l'ambrusio, que tus aires et un seu cande rendun tun estazado agradable, o pais remirable que medunos de bonur. Je l'ai corrigé, car la forme d'origine chez Delzon est beaucoup plus francisée. C'est le grand défaut que reprochent tous les occitanisants de ma connaissance, prof d'occitan en lycée ou spécialiste universitaire de l'occitan. C'est le grand défaut que l'on reproche à l'occitan de Delzon, c'est les francisations. Il semblerait que Delzon donc ait eu des carences, des trous dans son vocabulaire, et lorsqu'il ne savait pas quel mot employer, qu'il ne connaissait pas le mot occitan, il le remplaçait par un mot français qu'il occitanisait plutôt mal que bien. Par exemple, au lieu de dire « cortesio », qui est la forme médiévale, sur « cortes », qui se trouve dans les poèmes, par exemple, d'Arnaud Bernard, eh bien, il vous dira « courtoisio », l'ambroisie, qui normalement devrait être sous une forme occitane, « ambrusio », il vous dira « ambroisio ». Le climat, en occitan, c'est l'aire, il vous dira « climat ». Pur, c'est « cande », il n'emploiera pas « cande », il dira « pur ». Le verbe « rendre », il dira « rendre ». Le séjour, ça peut se dire « sutsur », mais le mieux, c'est « estazado », il ignore le mot. Pour « agréable », il ne dira pas « agradable », qui est la bonne forme occitane, il dira « agréable », et ainsi de suite. Alors, ce qui m'a beaucoup plu chez Delzon, c'est sa sensibilité naturelle et prime, il faut dire primitive, mais au bon sens du terme, aux beautés et au charme de la nature. En cela, il rejoint les troubadours. On retrouve chez Delzon la même sensibilité aux beautés du paysage, montcuquois, que l'on retrouve chez les troubadours. Tout comme eux, il est sensible aux fleurs, il est sensible aux ombrages, il est sensible aux prairies et aux frais ruisseaux scintillant à la lumière du soleil printanier au bord d'ombrages sous lesquels il se place. Si vous voulez, on retrouve chez Delzon quelque chose. Il y a à la fois quelque chose de la poésie troubadouresque, mais telle que, modifiée par son instruction reçue dans le primaire et le secondaire. Il conviendrait pour Delzon de chercher ce qu'ont été ses lectures, sa formation, ses professeurs au lycée de Cahors, s'il a été au lycée de Cahors ou à l'école de Montcuq. Quels étaient les manuels qu'on utilisait. Il a une formation littéraire qui apparaît très nettement à travers ses œuvres, notamment dans une œuvre en français qu'il a appelée « Le sentier de l'amour », qui est véritablement une chansonnette, mais qui est d'une facture française très, très, très pure. J'ai eu l'impression, en les étudiant de près, qu'il les avait d'abord écrits en français, puis ensuite traduits en occitan. Alors, dans ces poèmes, on retrouve des factures de l'école française populaire du XIXe siècle, où il suit la versification populaire. Alors, c'est là le problème, c'est qu'on retrouve chez lui la métrique, la mesure des poèmes des troubadours en octosyllabes, qui reviennent naturellement chez Delzon. Il suit plus ou moins ce rythme octosyllabique, car c'est tantôt de 7, tantôt de 8, tantôt de 9 pieds. On retrouve la même chose chez les troubadours. Ce serait donc, si vous voulez, la poésie de Delzon serait une poésie naturelle, spontanée, par laquelle il retrouverait ses racines occitanes. Malgré l'influence du français dans le choix et de son vocabulaire, dans la construction donc, de son lexique. Et alors que chez Bernat Arnal de Montcuq, on a affaire à un occitan classique, médiéval, beaucoup plus riche de mots et de sens, et un occitan qui fait vraiment se réfère aux origines latines de la langue. Il ne faut pas oublier une chose, l'occitan, qu'il soit médiéval ou moderne, c'est comme le français, c'est comme le castillan, le catalan, l'aragonais, les différents dialectes de l'Italie. Dieu sait qu'en Italie, vous avez autant de dialectes que de contrées. C'est du latin tardif, évolué, tout simplement. C'est pas autre chose, avec quelquefois des influences, alors gaulois, le substrat gaulois qui ressort, ou le substrat ibérique, ou tout ce qu'on pourra imaginer. Mais du reste, on s'était amusé à essayer de se demander ce que serait devenu s'il n'y avait pas eu l'invasion arabo-musulmane du Maghreb ou l'implantation d'anglo-saxons en Angleterre, en Bretagne romaine, ce que serait devenu le latin parlé au Maghreb ou en Bretagne romaine. On a fait des tentatives de reconstitution de latin maghrébin. Eh bien, c'est un peu la même chose qu'il aurait fallu faire au XIXe siècle, lors de la grande époque de ce qu'on a appelé la rebisculado, c'est-à-dire la renaissance de la langue d'oc au XIXe siècle. Il y a d'abord une première rebisculado au XVIe et XVIIe, illustrée par Goudouli à Toulouse, avec son Ramelet Mundi, Pays des Garros en Gascogne. Et il y a une seconde rebisculado au XIXe, illustrée par Mistral, Roumanille, Aubanel, et dans nos régions, le fameux Tsensemi, Jasmin d'Agen, célèbre par ses Papiliotos, son recueil d'histoires versifiées, notamment le fameux récit de la Bugle de Castelculier, il faudrait dire la Sego, ou l'Orbo de Castelculier, ou bien par Maltro l'Innocento. Alors vous avez avec Jasmin un excellent poète occitan du XIXe siècle, avec un occitan qui ressent encore de ses origines médiévales, beaucoup plus que celui de Delzon. C'est un peu l'œuvre qui est celle que je recommanderais toujours à mes amis occitans et qui ne veulent pas m'écouter. Il faudrait faire, à propos de l'occitan, ce qu'ont fait les humanistes français de la Pléiade lors de la Renaissance, où en revenant au latin et au grec, ils ont reforgé une langue latine matinée de l'hellénisme. Il faudrait, comme l'on dit dans un fameux texte du début du XIVe siècle, on disait de Pétrarque qu'il avait été le fabre del miglior suo parlar latino. Il faudrait faire la même chose à propos de l'occitan, revenir aux formes latines et médiévales et rebâtir des formes modernes. C'est tout à fait possible en étudiant les étymologies et les règles que l'on connaît bien d'évolution de la langue au point de vue de la forme, de la graphie et de la prononciation. Alors, nous allons maintenant nous reposer pour quelques minutes musicales, après lesquelles j'aborderai d'autres aspects de la question.
Thank you.
Alors, il conviendrait à présent de se plonger un peu plus dans l'étude des œuvres de ces fameux poètes, l'un au XIIe, l'autre au XIXe. Ils sont séparés par 7 siècles, ce qui évoque la fameuse prophétie émise au XIVe. « Al cap de 700 ans, tournera Berdezza le laurel. » Au bout de 700 ans, donc vers 2030, le laurier de la poésie d'oc refleurira ou reverdira. Delzon, donc, si vous voulez, occupe au XIXe siècle à Montcuq la place qui est celle dans le félibrige occitan général de Mistral, de Roumanie, d'Aubanel, de Jasmin. C'est le maître local de la langue poétique occitane. Alors, je vous disais que ce problème de sa langue occitane, c'est qu'elle semble plutôt un patois qu'un occitan pur et classique. C'est le grand reproche que je lui ferai par rapport à l'occitan de Bernat Arnal du XIIe siècle. Évidemment, la langue de Delzon, bien sûr, est un patois, un patès, un patouès, un patois du français, non de l'occitan, toujours langue à part entière au XIXe siècle, après les mutations subies depuis le XIIIe. Surtout, bon, ce qu'on peut reprocher à Delzon, comme du reste à Mistral, c'est l'adoption malheureuse du code d'écriture du français, ce qui fait qu'il faut prononcer leur langue à voix haute pour arriver à bien se restituer la phonétique. On peut excuser Delzon de n'avoir pas utilisé ou même n'avoir pas été au courant des travaux de Père Bosque, de Prosper Estiou, etc., occultés par le système mistralien, mais enfin, son mérite, il faut bien le reconnaître, est d'avoir fait quelque chose, d'avoir apporté à la reconnaissance de notre langue sa pierre, si mal taillée qu'elle fût. Alors ça m'amènerait, pour ma part, à classer les œuvres de Delzon en 3 groupes. D'abord, les œuvres citadines, montcuquoises, celles d'un bourgeois à la campagne. Parmi celles dont j'ai des exemplaires, je citerai la Calitorto, la Ipimparelos, Aimen los Auselus, c'est-à-dire la violette, l'ode à la violette, l'ode aux pâquerettes et nous aimons les petits oiseaux. Ensuite, vous auriez des œuvres rurales par leur visée, Canto Bouillé et Loubungru. Canto Bouillé chante Bouvier, chante laboureur et Loubungru le bon grain. Une œuvre inclassable, une idylle, en français, Le Sentier de l'amour. C'est très bourgeois façon 1900. Et enfin, son œuvre majeure, magistrale, campaniliste au sens où ce qui veut dire esprit de clocher, patriotico local, La Montcuquoise. Il y avait d'autres œuvres. Il y en avait 13 en tout qui ont été publiées. Moi, je n'en ai donc en possession que 8. Il m'en manque donc 4. Alors, évidemment, par rapport aux œuvres d'Arnaud Bernard, c'est tout à fait différent. La poésie d'Arnaud Bernard, qu'il faudrait maintenant voir à travers sa langue et sa construction, au fond, qu'est-ce qu'elle évoque ? Eh bien, elle évoque, plus que celle de Delzon, l'ascèse mystico-érotique qui visait, chez les troubadours, à sublimer le désir en en repoussant toujours plus la satisfaction par une enduro, une épreuve, si vous voulez, qui affine l'amour. Il ne faut pas oublier que l'amour en occitan, c'est féminin, comme en latin. Et de désir charnel, le transmue en contemplation éthérée, affinée, en désir d'amour et en désir d'aimer, et en désir d'être aimé. Ou en désir de désespoir, mourir de n'être pas aimé. Ce désir d'amour, cet enthousiasme éthéré et mystico-érotique, que l'on appelle en occitan médiéval le zoï, qui pose beaucoup de problèmes d'étymologie, rend le troubadour, qui est toujours un noble et cavalier, il le rend, comment dirais-je, fou dans son enthousiasme. Il plane au-dessus des réalités et son zoï le rend gai, le rend gai. Alors là, on a donc les deux étymologies qui apparaissent avec gai, gai, qui vient du latin gaius, qui voudrait dire le gai, l'oiseau prédateur. En fait, ça vient du latin gaudius, qui a évolué en gaudiosus, psausius, joyeux. La fameuse chanson de Guillaume X du d'Aquitaine, « Cambei la lausette, mon resasalos controlerai »« Quand je vois l'alouette mouvoir ses ailes contre le rayon de soleil ». Alors le zoï, si vous voulez, c'est l'état de sublimation du désir qu'éprouve le troubadour à la contemplation de sa dame. Et il est conduit à ce zoï par la manifestation de sa valeur noble, son prez, son prix, acquis non pas par la paix, la paz, mais par les combats et les tournois. C'est en triomphant sur les champs de bataille que le cavalier et noble, troubadour, se rend digne de la dame, mais se rend digne de l'admiration, de la contemplation de la dame, pour ce qui est comment dirais-je, du couronnement de cette voie ascétique, mystico-érotique, amoureuse, elle est sans cesse repoussée. Au fond, le but suprême du troubadour, c'est la mort. C'est ce qu'avait très bien montré Denis de Rougemont dans son fameux ouvrage « L'amour et l'Occident », appuyé sur la lyrique occitane médiévale, dont vous pouvez consulter des morceaux dans l'anthologie réunie par le professeur Pierre Beck de l'Université de Poitiers. Alors, ce que j'avais noté, c'est du reste que Bernard Arnall ne désignait jamais sa dame sous aucun signal. Le signal, c'est l'emblème, qui est toujours au masculin en occitan, et ce qui a fait penser à bien des choses. On ne sait pas du tout quelle était la dame dont Arnaud Bernard était amoureux, si vous voulez, auquel il dédiait ses poèmes. La plupart du temps, les dames connues portent des, je vous l'ai dit, des signaux, des emblèmes au masculin, Belarquier, par exemple, mais aussi, on les connaît sous leur nom féminin traditionnel, Indio, la violette, Sauris, la blonde, d'où les noms de famille Sor et Soré, Soré, E-T à la fin, c'est le petit blond, Lubo, la dame de Penautier, Dangeruso, ça a à peine besoin de traduction, Besiado, la désirée, qui apparaissent dans les textes de Montcuq du XIIIe siècle. Alors on peut se demander ce que cette ascèse mystico-érotique de Bernard Arnall peut avoir de commun avec l'atmosphère culturelle où vivait Delzon, ce XIXe siècle bourgeois, républicain, libéral, progressiste, des lecteurs du Journal du Lot et de la Dépêche du Midi, ces bourgeois petits ou grands, Louis Philippard, radico-socialistes, souvent anticléricaux, mais légalistes, prudemment conservateurs, réformistes, attachés à leurs intérêts, à leurs revenus, assis sur la terre et la rente, comme c'était le cas des bourgeoisies consulaires de nos bourgs et villes d'Ancien Régime. Et en ce midi du XIXe siècle, qui se redécouvrait lui-même, se réinventait en son occitanité revivissante et mistralienne, ce midi de poètes et de romanciers patoisans, régionalistes, traditionnalistes, passéistes, ceci n'embellissait-il pas le passé, les temps anciens d'avant la Révolution? C'est ce à quoi on peut se demander, notamment à Montcuq, en pays de Quercy-Blanc. Alors évidemment, il faudrait se pencher pour étudier la langue et son évolution depuis le XIIe et XIIIe siècle, avec la Canzu de la Cruzado, par exemple. Il faudrait se pencher sur les textes de la Charte des coutumes de Montcuq, qui est de 1467, mais sa version actuelle a été réunie, mise par écrit, en 1607, sous le règne d'Henri IV, par un notaire de Montcuq qui s'appelait Parayre, si vous voulez. La charte des coutumes d'origine avait été mise par écrit en 1467 sous la présidence de Pierre de Raymond, Peyre de Ramon, seigneur de Folmont et de Bagat, et sénéchal du roi en Quercy. C'est du reste en relisant cette charte des coutumes et les registres des notaires de Montcuq du XVe et XVIe siècle avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts, quelques actes occitans plus tardifs, notamment un testament de 1583, d'une certaine Astorgo Mario de Mascayrol, que je peux voir l'évolution de la langue et qui nous mène depuis l'Occitan médiéval, encore bien caractérisé au XVe siècle sous la plume des notaires, vers l'Occitan francisant d'Elzon. Occitan francisant plein de perles purement occitanes, de termes vraiment occitans, d'expressions qu'il ne pouvait pas trouver ailleurs que dans sa langue, la langue de ses ancêtres. Alors, après avoir classé donc ces œuvres en différents groupes, il faudrait quand même voir maintenant. Je vous disais que les œuvres de Delzon pouvaient être classées entre les œuvres citadines d'un bourgeois montcuquois de la campagne, à la campagne, la Calitorto, la Ipimparelos, Aimen Lusauzelus, deux œuvres rurales par leur visée, Canto Bouillé et Lubungru, et enfin la fameuse Montcuqueso, le chant triomphant. Alors, la question que l'on se pose. En première partie, je disais « des fleurs, des feuilles et des branches, et du grain que l'on vanne à la chaleur du jour ». Et ce n'était pas du Ronsard. Alors, Delzon et les poètes occitans de la Ribisculade du XIXe siècle, quels sont leurs points communs? Alors, Delzon serait-il un imitateur? Serait-il un créateur? Fut-il un forgeur d'une langue d'oc moderne ou un destructeur de l'ancienne? On s'aperçoit qu'il ne s'épanouit vraiment que lorsqu'il s'ouvre au charme du beau temps de printemps et de Pâques, celui des troubadours, quand il voit fleurir les violettes et les pâquerettes, Calitortos et Pimparelos, qui sont pour lui les signes du printemps, au Londais, les Randals, au bord, il faudrait dire Alaibruos, il dit Alsbort, ce qui pose un problème parce que Bort, en bon occitan, c'est l'enfant bâtard, au bord des chemins, il ne se réfère pas à des formes plus imposantes de la flore, À peine évoque-t-il les graminées, la flour del Spratz et la Ipraderos, émaillée des fleurs blanches de pâquerette, il ne fait jamais mention de bois. Et par là même, ainsi que par sa mention des frais ruisseaux, qui sont communs chez lui avec des troubadours, on s'aperçoit qu'il devient un historien du paysage, car on sait qu'au 19e et 20e, les paysages du Quercy, notamment du Quercy blanc, étaient totalement dépourvus de végétation arbustive, arborée, arborescente. Ce dont on s'aperçoit en lisant Delzon, il cite certes des haies, les haies de clôture, les randals avec leurs épineuses, les pruneliers, les agranels ou buissus negres, les buissus blancs ou aubépins, dans les prés de fauche des rivières, des fonds de vallée qu'on appelle des rivières. Ainsi, en vallée de la Nègre Vieille, il vous citera les prairies abondantes ou à la dense végétation de graminées, piquetées de pâquerettes, mais il ne nous parlera pas de grandes forêts. L'évocation des ombrages de grands arbres est inconnue chez lui. On retrouverait même chez lui, à travers l'évocation des frais ruisseaux limpides, quelques détails, on pourrait en déduire ce qu'il en est de l'histoire du climat. Parce qu'on sait que pour que des ruisseaux soient limpides, il faut que les eaux de résurgence aient longtemps percolé à travers des roches sédimentaires, nos calcaires. Lorsque vous avez les rivières sont troubles, elles sont turbidescentes, c'est le signe de fort ruissellement sur des sols gorgés d'eau ou imperméables, argileux, nos terrefort, marneux, nos terros blancos, molassiques, nos bulbenos d'Aquitaine. Donc d'abondantes pluies brutales et longues, surtout de saisons chaudes, mais également de saisons froides, quelquefois. Donc Delzon en vient ainsi à être un témoin de l'histoire des paysages ruraux. Qu'en est-il de son témoignage par rapport à la Rebisculado ou Titano? C'est ce que montrerait l'étude de ce qu'est chez lui le beau et le gai temps de Pâques des troubadours, l'oubel et gai temps de Pascou, avec la chute brutale dans la réalité qui suit toujours chez les troubadours. Delzon, dans ses promenades printanières, aurait-il été effarouché par la lecture de Bernard Arnal de Montcuq? Aurait-il été effrayé par la violence déchaînée qui s'exprime chez les troubadours? Quand on lit Bernard Arnal de Montcuq, on pourrait même se pencher sur l'étymologie de son nom et la signification qui fait de lui un ours fort et un vieux, vénérable, supérieur, un noble, mais un noble cruel. C'est ce que veut dire le terme d'Arnal. Arnalt, vieux et vénérable, alt, arn qui veut dire cruel, sanguinaire. Et Bernard, c'est Bernhard, c'est l'ours fort. Est-ce que le nom même de Bernard Arnal n'aurait pas été en accord avec ce que l'on relève chez lui? Ce qu'on s'aperçoit à le lire, c'est cette propension vitaliste et instinctuelle à la violence la plus déchaînée, celle des cavaliers et nobles, parce qu'on est à la fois noble et cavalier. Lorsqu'on est cavalier, on est forcément noble, et lorsqu'on est noble, on est aussi cavalier. Quelquefois, la question peut se poser. De l'entourage, de l'host et cabalgado général, cité dans la charte des coutumes de Montcuq, c'est-à-dire l'armée et la chevauchée générale, des rics et poudérous, comtes de Toulouse, c'est-à-dire des dominants et puissants, parce que rics, c'est pas vraiment riche, des riches et puissants, si vous voulez, comtes de Toulouse. Cette host et cabalgado général, cité dans la charte des coutumes et que l'on retrouve dans la Canzu de la Cruzado, et qui se caractérise par une violence déchaînée, faisant fuir les paysans et les laboureurs et les bergers dans toutes les directions possibles et imaginables de l'espace. On est là dans une situation de violence extrême au XIIe, XIIIe siècle dans les pays d'Oc des Comtes de Toulouse. Alors que chez Delzon, on est dans une situation, au contraire, de paix, de prospérité et de liberté. Et c'est ce qu'il faudrait voir maintenant à travers une dernière partie, après une petite intermède musicale.
Kem sul llevado prude d'oro, ente la nuite lumati, luret caro tu plan de oro, che te espiatri nadrumi, luret caro tu plan de oro, che te espiatri nadrumi. Scensro de brucia la cusino, che het gauhad in de caffè, pusche i tira tu o paigino, aus di o du calandrie, pusche i tira tu o paigino, aus di o du calandrie. A che momento che de la semnos ave de l'uno de so chi viu pesa la gioia se la spenos e l'utem schi sembata obliu, e zala gioio se la spenos, e l'utem schi sembata
Alors, si chez Bernard Arnault de Montcuq, l'évocation de la violence est due et l'aveu du mépris qu'il éprouve pour les paysans libérés du servage et enrichis, dont l'ascension sociale se traduit par un déclassement relatif des nobles, qui exprime donc une angoisse devant l'évolution de la société, qu'en est-il chez Delzon ? Est-ce que Bernard Arnault, en matière d'amour et d'amourette, en apprendrait-il à Delzon ? Alors à Bernard Arnault, ce qui revient, c'est l'amour, l'amour fi, c'est-à-dire l'amour épuré, l'amour éthéré, la fine amour, d'où le nom de Finamando, nom de Finamando des Rousettes, fille de Ponzo Rousette, sénéchal du roi en Quercy après la guerre de Cent Ans, dame de Lastour, de Rousette, de Belmonté et d'autres lieux du pays. Alors est-ce que cette fine amour de Bernard Arnault correspondrait aux amourettes anciennes et toujours passagères qu'évoque Delzon dans un de ses poèmes, amourette remontant du fond de sa mémoire à chaque printemps, lors de la floraison et de la montée des parfums des violettes et des pâquerettes. Il y a chez lui, comme chez Proust à propos de la fameuse Madeleine, à la vision de la floraison des pâquerettes et des violettes et à la captation de leurs parfums, il y a chez lui un retour dans sa mémoire des amourettes de sa jeunesse. Il est sensible, je vous le disais, comme tous les troubadours, aux murmures et à la limpidité scintillante au soleil du printemps des frais ruisseaux qui courent par nos combes. Mais il ignore, fleurs souvent évoquées chez les troubadours, les roses, les aubépines, les églantines. Chaque printemps est pour lui la saison de réminiscence de sa jeunesse amoureuse à la cueillette des pimparelos et des calitortos, des pâquerettes et des violettes. Il avait choisi comme pseudonyme. Il avait fait l'anagramme de son nom et de Louis Delzon, il avait transformé son nom en Lusio Dolens. Dolens, ça veut dire littéralement en bon occitan le dolan qui brillait, le dolan qui luisait. C'est une image poétique digne du romantisme gothico-troubadouresque des années 1830, mais curieusement, ça rejoint certains poèmes du XIIe siècle, le fameux Plan de la morte del Souverey Inglés. Plainte sur la mort du jeune roi anglais des années 1180. Estout mort banat epos, setuit l'idol el plurer marimen, comment causis en esse gle doulen, fos un encen cum semblan tuit leutier contra el mort del suberei inglés. D'un reman prets et suben dolorus, el mun s'escur tens et tenebrus, ples de tristu et d'iro. Orgueilleusement, tu peux te vanter de la mort du jeune roi anglais, car si tous les deuils, les pleurs, les marimens et les douleurs, que homme en causis, qu'on n'a jamais entendu en ce siècle de souffrance, est seigle et doulaine, fausse ou nensin, étaient réunis ensemble, elle semblerait totalement légère par rapport à la mort du jeune roi anglais, dont la valeur chevaleresque et la jeunesse restent en son laissée douloureuse, le monde obscur, alors tense, ça revient à dire la même chose, gris et ténébreux, plein de tristesse et de ressentiment. On a aussi, dans la même inspiration, la canzone de l'amour de l'une de Zaufre Rudel, la chanson de l'amour lointain de Geoffroy Rudel, prince de Blaye. Bau de Talan, embrun que clis, si que can, ni flou d'Albespi, num plats plus cum liber gelat. Je vais de désir. Embrun s'est assombri et penché en avant, comme si aucun champ ni fleur d'aubépine ne me plaisait plus que l'hiver gelé. Alors on peut se demander de Delzon et de Bernard Arnall lequel des deux eut la meilleure part. Fut-il plutôt le bourgeois et fonctionnaire renté du 19e ou le cavalier noble qui eût pu, comme dit un autre poème, « faire une berce des dreits niens », faire un vers de droit néant, au temps de la fleur inverse, la flore inverse du 12e siècle. On peut donc se poser la question, la grave question que celle de la civilisation des mœurs par l'amour, l'amour charnel ou éthéré des troubadours, la fine amour doc, au pays de Finamando de Rousset, où les amourettes passagères et quelquefois clandestines des bourgeois ruraux ou citadins du 19e siècle et de la 3e République du 20e, entre les années, je dirais, 1875 et 1930 finissantes. C'est l'époque où disparaît Delzon de la documentation. Je n'ai jamais pu savoir quand est-ce qu'il était décédé, ni même s'il avait des descendants. Alors, il reste dans notre mémoire, malgré tout, un poète estimable de la lyrique doc du 19e siècle, de la Renaissance occitane du 19e. Certes, il n'atteint pas les beautés d'autres poètes tels que Mistral ou, par exemple, Jasmin. Il est certes surclassé en qualité d'expression poétique par Arnaud Bernat de Montcuq, mais il a, comme me disait un de mes correspondants, apporté sa pierre, si mal taillée qu'elle fût, à la reconnaissance et à la renaissance de notre langue au 19e. C'est son mérite principal. Il est certain que s'il avait pu, avec ses capacités intellectuelles et ses capacités de lecture, s'adonner à des recherches plus approfondies sur l'occitan médiéval, sur la linguistique, la phonétique, la morphologie, il aurait produit des œuvres d'une bien meilleure, je ne dis pas qualité, mais d'une bien meilleure forme occitane. Arnaud Bernard lui-même n'est pas forcément le meilleur des troubadours. Il y a eu d'autres, pensons à Guillaume X, duc d'Aquitaine, Guillien Detz, Lou de Tzenk, Dutz de Guiano, le premier et le plus grand des troubadours, mais il y en a d'autres, Peyre Cardinal, Peyre Bidal, Arnaud de Bournel, et ainsi de suite. Bernard de Bentadour, on n'en finirait plus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été assez simple, mais le sujet était long. J'avais préparé ça sur Internet, il y avait une bonne dizaine de pages. Je suis loin de vous avoir tout dit. Alors, Bernard Arnault de Montcuq n'a été publié qu'au 19e siècle dans des recueils dont le plus connu est celui de Renouard, R-A-Y-N-O-U-A-R-D, que vous trouverez dans les vieilles bibliothèques, et notamment au CIRDOC à Béziers, le Centre international de recherche et de documentation occitane, où il est conservé. Mais je pense que vous êtes conservé également, probablement, soit à la médiathèque de Cahors, soit au fonds ancien de la bibliothèque de Cahors, au-dessus de l'office de tourisme. C'est pas impossible du tout. Peut-être bien aussi aux archives départementales. C'est pas impossible au rayon bibliothèque. Il n'est pas publié dans les anthologies modernes actuelles, celles de Pierre Beck, de Gérard Souquet, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs. Quant aux œuvres de Delzon, je les ai obtenues en version d'origine ou en photocopiée d'une figure de Montcuq contemporaine, Élie Lolmed, qui a publié un recueil de cartes postales et de textes divers sur Montcuq au 19e et au 20e siècle. C'est lui qui m'a transmis les œuvres de Delzon. qui, à part cela, est très peu documenté. Quand vous cherchez dans les ouvrages spécialisés, il y a 2 ou 3 lignes sur Delzon, et on ne connaît même pas la date exacte de sa mort. On sait qu'il a publié 13 chansons, donc il était comme les troubadours, il poétisait pour le chant, pour l'expression chantée, et non pas pour la lecture à haute voix, ni même pour la lecture, des yeux, comme on dit. Donc vous les trouverez, vous pouvez demander à Lili Lolmed s'il veut bien vous passer des reproductions, et sinon pour Bernard Arnall, il faut chercher dans le Rénoir, par exemple. Voilà. Merci, à une prochaine fois, et d'ici là, essayez de voir le jour sous une lumière printanière.
Canto per